开心。那么你出工就出工就工的。Alors, trois, quatre.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour, bonjour Yves Legrand, nous sommes joyeux. Nous sommes joyeux parce que nous vous accueillons dans ce studio de France Culture et parce que nous allons parler de vin et que le vin rend joyeux et que nous allons parler du vin en Île-de-France et la maison Legrand, centenaire depuis 1912 à Issy-les-Moulineaux, est une maison qui connaît l'histoire de son Île-de-France.
Bien sûr, ça remonte à peu près au IVe siècle, sous l'occupation romaine. Et à Paris, Parisis, Lutèce, il y avait déjà des vignes. Mais le développement de la vigne a surtout été sous l'égide de l'église, des moines, de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui est du VIe au, jusqu'à la Révolution, un petit peu avant la Révolution, dominaient bien sûr cette région. Ils avaient un avantage, c'est qu'ils avaient l'argent, tout le pouvoir, rien que le pouvoir, temporel et spirituel. Donc on ne discutait pas. Et il y avait sûrement des choses pas bien, mais il y avait aussi des choses très bien. Et en ce qui concerne le vin, ils ont cultivé la vigne avec des grands noms. Il y avait une sorte de protection du vignoble d'Île-de-France.
Alors, Yves Legrand, c'était un vignoble considérable.
Le vignoble a été jusqu'à 45 000 hectares. Et juste avant la Révolution, en 1709, il y a un hiver terrible qui a détruit le vignoble et puis il s'est replanté. Mais la veille de la Révolution, on comptait 25 000 hectares. 25 000 hectares, c'est la production du Beaujolais. C'était, il y a quelques années, la production de la Champagne. Toutes les villes autour de Paris étaient plantées en vigne. D'ailleurs, les Parisiens ou les tout jeunes Parisiens ou de la région parisienne habitent dans des rues qui s'appellent rue du Pressoir, rue des Épinettes, rue du Bon Vin, place du Bon Raisin. Enfin, et surtout dans Paris aussi, il y avait beaucoup de vignes à Belleville. Et pourquoi? Parce qu'il fallait approvisionner les Parisiens. Pourquoi en vin? Parce que l'eau, souvent, était polluée. Et donc, les médecins recommandaient de boire du vin, parce qu'au moins, il n'était pas pollué.
Quel était le cépage? C'était du Pinot?
Là-bas, c'était le Pinot. Mais cette région, puisque les moines, je disais, avaient le temps et le pouvoir, ici, on est dans le bassin parisien, c'est-à-dire c'est du calcaire, et c'était des terres à blanc. Les grands vins parisiens, c'est la Renaissance, le Moyen-Âge et la Renaissance sous la domination de l'Église.
Et comment s'appellent ces vins?
Alors, le vin blanc s'appelait principalement le Pinot gris aujourd'hui, mais il s'appelait le Fromenteau, T-E-A-U, ou Fromentin, ou Beurot, B-E-U-R-O-T, le fameux Pinot Beurot. Tous ces trois mots ressemblent à la couleur du blé gris, du froment, ou bien de la burde des moines, un petit peu gris-bleu. Et c'est aujourd'hui, le Pinot gris, c'est l'un des principaux cépages, grands cépages d'Alsace. Et ici, dans la région parisienne, depuis une cinquantaine d'années, surtout depuis que Suresnes a sauvé son vignoble, Montmartre aussi, c'était avant-guerre, il y a à peu près 140 parcelles de vignes en Île-de-France. Alors le cépage sous les moines, c'était principalement le blanc, ou alors c'était le Pinot, c'était le Meunier aussi, le Pinot Meunier, c'était ce qu'on appelait le Pinot Chardonnay. l'évolution des cépages...
On n'est pas loin des cépages de Champagne, là. Hein.
Et de Bourgogne, bien sûr.
Bien sûr.
Juste avant la Révolution, et puis après, puisque c'est une date importante dans le changement des comportements, la gestion de la production viticole était là sous la gouvernance de la République, de l'État toujours, mais d'une façon différente. Ce qui a amené cette reconversion forte, c'est la disparition du vignoble initial avec cet hiver terrible. Les vignerons n'étaient plus sous la férule de l'Église et se sont dit, on n'a plus l'écurie sur le dos, enfin on va pouvoir faire du fric. Et ils se sont mis à produire ce que les gens demandaient à l'époque, c'est-à-dire du vin rouge. Je disais précédemment qu'on faisait du vin blanc parce que c'était le mieux adapté au terroir. Pour faire un grand vin, il faut un choix de cépage, un terroir et un homme. Ils se sont soumis à la mode
cracher la terre.
Et à faire du vin rouge. Et pour faire ce vin rouge, ils ont fait venir de la Bourgogne ce qu'on appelle le gamay grossier. Alors le Beaujolais est fait avec le gamay fin, mais là c'était du gamay grossier, c'est-à-dire productif. Et ils se sont mis à faire pisser la vigne. Les rendements avant du temps des moines étaient de 20-30 hecto-hectares avec une vigne bien soignée. Et là, ils sont montés à plus de 100 hecto-hectares. Et comment faisaient-ils pour nourrir cette terre? Eh bien, ils prenaient les bouts de Paris. Tous les déchets de Paris étaient mis dans les vignes. Et l'objectif était de faire pisser la vigne. Et ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait l'État parce qu'ils pouvaient prélever des taxes. Donc, plus la vigne pissait, plus l'État s'enrichissait. Et les vignerons étaient contents.
Mais c'est du raisonnement à court terme.
Voilà. Seul problème, c'est qu'on se souciait plus de la qualité du vin. Et la qualité diminuait considérablement. Le vin devenait mauvais. On appelait ça un chasse-cousin. C'est-à-dire que si vous souhaitiez que vos invités ne reviennent pas, vous leur serviez du vin de Paris et un chasse-cousin. Donc ça a été le début du commencement de la fin par les vignerons eux-mêmes et aussi par une gestion de l'État qui était à court terme. La taxe sur le vin est monté jusqu'à 4-5 fois le prix du vin.
Ah oui, c'est comme pour l'essence en fin de compte. Oui.
C'est comme pour l'essence. 1784-85, justement pour éviter la fraude, on continue de construire. C'était les grands boulevards à l'époque, la limite de Paris, le boulevard des Italiens, Porte Saint-Martin et ainsi de suite. On construit des barrières, des vraies murailles pour éviter la fraude parce que la taxe était importante. Alors, plus il y a une taxe sur un produit, plus la fraude augmente. Alors, il y a une date qui est fatidique, 12 juillet 1789. Les vignerons en colère, c'est pas les éleveurs de porcs ou de volailles qui sont en colère à cette époque, ce sont les vignerons, brûlent les octrois de plusieurs portes, Porte Saint-Martin et ainsi de suite. Le 13, ils en brûlent d'autres, et le 14... ils prennent la Bastille parce qu'elle s'était trouvée là dans leur révolte. Il n'y avait pas de considération révolutionnaire de refaire la société. Il y avait qu'on pouvait plus boire du vin, c'était beaucoup trop cher. Voilà. C'est la vraie, l'authenticité de la prise de la Bastille, c'est ça. Après, la grande histoire a fait en sorte qu'on a dit la prise de la Bastille, non. Alors, c'était d'abord une histoire de goutte de vin.
Yves Legrand, à propos de grande histoire, je vous propose de visiter celle des guinguettes, puisque vous connaissez bien les guinguettes, puisque Vous en avez une vous-même. Mais dans une guinguette près de la barrière, Fréhel.
Dans une guinguette près de la barrière, où c'est qu'avant il y avait les portifs, on va se taper sans plus de manière, des bigorneaux et de la friture au suif. C'est ça qui est batte, c'est ça qui est chouette, on fait pas de magne, on fait pas de chiquet. C'est du plaisir à bon marché dans une guinguette.
Alors justement, ces guinguettes, cette barrière, ces fortifs, c'est des mots qui évoquent beaucoup de choses pour vous, Yves Legrand.
On le voit aujourd'hui, et à cette époque c'était pareil, et encore avant, et j'espère que ça sera souvent comme ça, quand les gens sont méprisés, par eux-mêmes d'ailleurs, par un manque de culture, méprisés peut-être par le pouvoir, ou ils ne savent plus où ils vont, et qu'en plus on les prive de nourriture, et pire, de vin, eh bien ils se révoltent. Voilà. Alors, la taxe était importante et donc ça a duré plus d'un siècle et demi, ça arrangeait tout le monde, c'était calme. L'octroi prélevait une taxe 2, 3, 4, 5 fois plus chère que le vin. Donc, les Parisiens allaient s'encanailler, les bourgeois parisiens allaient s'encanailler dans les guinguettes, à l'extérieur des barrières, parce que là, le vin était très peu taxé. Et donc, on pouvait se griser, faire grisette. Les bourgeois allaient se griser. Alors, guinguet, ça viendrait de guinguet, c'est-à-dire un petit vin blanc acide, voilà, qu'on boit comme ça, à la volée. Et puis on chante. Alors il y a les guinguettes, c'est un lieu étroit où l'on se restaure. Hein. On accrochait le cheval, on rentrait dans la guinguette et puis allez, tavernier, on boit. Alors les ouvriers se réunissaient, chantaient. Le dimanche, on jouait à la belote. Il y a beaucoup de chansons sur les guinguettes du bord de l'eau.
On pense... chantait la belle équipe voilà, du vivier Jean Gabin. Et,
oui. Du vivier Jean Gabin avec le petit vin blanc. Alors cette guinguette d'ailleurs était en face l'île d'Amour qui existe toujours sur les bords de Marne. Et donc c'était des lieux de... c'était le bistrot de l'époque. Où on venait chercher, en plus du vin certainement, de la chaleur humaine. Et ces guinguettes ont disparu du fait que cette loi a été supprimée.
Yves Legrand, si l'on reste dans l'idée de la joie, il y a la veuve joyeuse. Alors, pour accompagner cette heure exquise, Yves Legrand, j'aimerais que vous nous reparliez de cette idée de griser. Parce que si les grisettes, là, ce sont des jeunes femmes qui sont assez ouvertes d'esprit et pas que d'esprit, qui sont reconnues par leur capuche grise, l'expression se griser, ça vient des guinguettes, justement ?
Ah ben, ça vient des guinguettes, bien sûr. D'abord, c'était le vin gris. Hein et donc on allait s'encanailler à Meudon, Redin, allait s'encanailler chez les lavandières, parce qu'il y avait beaucoup de laveries à Meudon, ici Limoux, Boulogne par exemple, et les grands de ce monde allaient discrètement, se déguisaient même en ouvriers pour ne pas se faire remarquer, et incognito aller chanter, s'encanailler, et puis aussi prendre un peu la température, savoir comment ça se passait sur ce peuple parisien qui a toujours remué, qui est un peu explosif quand on l'énerve. Et bien sûr, chez nous, même dans notre guinguette, des gens que je ne connaissais pas nous ont fait une chanson sur notre guinguette.
Eh ben, il faut nous la chanter. On va, en tout cas, nous en chanter quelques vers.
Hein, écoutez, mais il n'y a pas trop à boire chez vous, donc ça risque de pas être bon. Mais on va quand même y aller. Alors. Je suis heureux de parler de Roger Rigal, que j'ai vu qu'une seule fois, et de Michel Chéneau. Je ne sais pas s'ils vivent encore. En tout cas, je les salue. Et surtout, je salue leur mémoire et leur gentillesse. Ces deux personnages sont venus chez moi, dans cette guinguette, là au-dessus des vignes. Et ils ont dit « Oh, mais c'est vraiment formidable !» Et ils sont revenus avec une chanson qu'ils ont chantée. Ils m'ont laissé les paroles. Je ne les ai plus jamais revues. Alors ça, c'est deux mémoires.
Je n'ai pas mon accordéon, c'est dommage. Parce que j'aurais été ravi de vous accompagner.
Mais... Alors viens, on va faire la fête. Viens, on va se payer du bon temps. Il y a du vin gris, des grisettes dans la guinguette à Legrand. Moi, je trouve ça charmant. Et si tu perds un peu la tête à cause du petit vin blanc, avec toi, je ferai la cueillette d'un peu d'amour avant le printemps. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger.
Près de Paris, au bord de la Seine, sont de gais endroits où l'on se promène. On met ses beaux atours, faut être chic quand viennent les beaux jours. Et puis peut-on jamais savoir ce qui se passera le soir. En se baladant, on voit une guinguette. Où dans la semaine, les rouliers s'arrêtent. On y entend un orchestre poussif. Un accordéon plein tif. C'est un petit balmusette, c'est un très gentil cabelot, où danse les midinettes, chaque dimanche au bord de l'eau. Un vieux saxo nostalgique, soupire encore une java, et toujours sur cette musique, on tourne à petits pas, on se balance sur l'escarpolette, et ça fait crier les
Le caboulot, les midinettes, les fillettes. Alors, les fillettes, c'est aussi des bouteilles lyonnaises.
C'est des bouteilles aussi angevines. Sont des demi-bouteilles, en fait. C'est à peu près 35-37 centilitres, oui. Se faire une fillette, bien sûr. C'est une expression vigneronne, un peu grivoise.
Alors, Yves Legrand, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'avez pas seulement une guinguette, mais vous avez aussi un vignoble que vous avez planté au-dessus de caves en calcaire qui sont d'anciennes carrières à Issy-les-Moulineaux.
Oui, nous avons récupéré ces vides de carrière qui étaient, pour la mémoire, dans la mémoire collective locale, un lieu de peur, de misère et de mort, parce que c'était la mine. Il y avait des mines de charbon, il y avait des mines de fer, et bien là c'était des mines de craie. On commençait à y travailler à 8 ans, on en mourait à 35 ans, voilà. C'était vraiment dur. C'est bien de connaître ces choses-là pour dire aujourd'hui qu'on vit une époque formidable. Et nous avons récupéré ces carrières à un marchand de champignons, puisque ces vides de carrières, après avoir extrait la craie, on a fait des abris pendant les différentes guerres, des mûrisseries, des champignons. Et c'était désaffecté dans les années 60. Et nous nous sommes engouffrés dans ce vide presque sidéral pour nous. Et puis, depuis plus de 50 ans, nous embellissons ce site. Et c'est vrai, s'il y a une réussite, souvent quand les gens viennent, ils sont enthousiasmés, c'est beau. Et pour moi, ça figure pas dans le bilan, mais ça, c'est quand même le plus important. Et c'est ce dont les gens ont vraiment soif, ce besoin de vivre et donc de s'exprimer. Et à travers ces caves, nous avons stocké les vins. Le vin s'élève. Le vin s'élève en vieillissant, comme devrait faire l'être humain. Il devrait s'élever en vieillissant, même s'il est enfoui.
Il se bonifie en vieillissant.
Il se bénéficie, voilà, en vieillissant. Et donc, c'est un lieu, aujourd'hui, quand nous en parlons, ou quand les gens qui l'ont visité ou vécu dedans en parlent, eh bien, il y a un grand sourire sur leurs lèvres, parce que c'est des moments souvent extraordinaires, parce que c'est notre devoir de commerçant. Commercer, c'est comportement vis-à-vis d'autrui. Viens, je te reçois, et j'espère que tu vas passer un bon moment. Et puis, à la sortie de ces caves...
Alors, ces caves, c'est, il faut dire que c'est des petites caves.
Le chemin des mines, il y a plusieurs kilomètres de caves. Oui, c'est assez impressionnant. Et notre maison s'appelle Chemin des Vignes. On n'a pas été le chercher très loin, parce que c'est marqué sur l'arrêt de bus, ça s'appelle Chemin des Vignes. Parce qu'il y a le Chemin des Vignes.
Et parce qu'il y avait des vignes.
Évidemment.
Il y a longtemps, et vous avez replanté des vignes.
Replanté des vignes. Alors, c'est la confrérie Saint-Vincent d'Issy-les-Moulineaux, qui avait été dissoute en 1905.
Saint-Vincent, patron des vignerons.
Saint-Vincent, patron des vignerons. C'est cette confrérie Saint-Vincent qui a recréé une équipe de bons copains et de bonnes copines qui se sont dit, écoutez, plutôt que d'aller, on va aller se torturer avec le vin que faisaient nos ancêtres.
Et alors, la démarche. Il faut donner la taille du vignoble, parce que c'est pas une entreprise commerciale.
Alors, c'est le plus grand vignoble d'Issy-les-Moulineaux, puisqu'il y a 400 pieds de vigne, et c'est le seul. Donc, on est le meilleur parce qu'on est le seul, et c'est le plus grand parce qu'on est seul. Il faut déjà poser les jalons correctement. Non, plus sérieusement, et avec beaucoup plus d'amour et de ténacité, nous avons souhaité, il y a eu des vignes pendant 1500 ans, les gens ont travaillé durement, c'est très dur de travailler la terre. On l'entend aujourd'hui dans la résonance paysanne, eh bien ça l'était aussi avant. Et donc par respect, en hommage aussi à ces gens-là, qui c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui, nous recherchons la démarche de faire un vin digne de ce nom, digne de ce que les anciens faisaient. On parle toujours du mauvais vin, eh bien nous avons la prétention, en tout cas l'honneur, d'essayer de faire un grand vin. Et qu'est-ce que c'est qu'un grand vin? Eh bien, quand vous le faites goûter parmi d'autres grands vins, il est admis dans cette catégorie. Chaque année, c'est une classe de CM2 qui fait les vendanges, qui presse, qui foule. Cerise sur le gâteau, ou grain de raisin sur la bouteille, chaque enfant dessine les étiquettes. C'est-à-dire que, par exemple, Mouton Rothschild, ils ont assez peu de moyens, puisqu'ils ont un seul artiste pour toutes leurs bouteilles. Nous, nous avons un artiste par bouteille, voilà. Et nous avons mis ce vin, à la demande d'ailleurs du sommelier de l'Assemblée nationale, nous avons mis ce vin à l'Assemblée nationale. J'y ai joint, bien sûr, l'histoire, ça leur a bien fait plaisir. J'ai joint aussi cette phrase de Montesquieu, qui était aussi vigneron, et qui disait « Faites-leur du bon vin, ils vous feront de bonnes lois ». C'est la raison pour laquelle, quand on me demande si le vin d'ici est bon, je dis oui, mais il peut encore s'améliorer.
Yves Legrand, le vin, c'est une histoire d'amour. Je vous propose d'écouter une petite scène du film Saint-Amour, où Benoît Poulvorde et Gérard Depardieu découvrent la carte des vins.
Regarde comme c'est bien fait. Lille, là, vocabulaire de dégustation. Regarde, les bleus chapeaux.
Alors, oui, vocabulaire de dégustation. Longueur. On mesure la longueur d'un vin en bouche en comptant les secondes. Aussi appelé caudalie, jusqu'à ce que les arômes disparaissent. Une fois le vin avalé, abattu. Un grand cru doit tenir au moins 12 à 15 caudalies pour être digne de son rang, ils disent. Des caudalies. C'est vraiment le...
C'est scientifique, hein. c'est vraiment bien fait ce truc.
C'est bon, il y a plein de... C'est des bonnes explications sur toutes tes régions.
Ça, c'est un précieux cadeau.
Ça, je suis content.
Alors, Yves Legrand, on n'entend pas très bien s'ils sont dans une voiture, hein, ils sont dans un taxi. C'est caudalie.
C'est le temps que dure le goût du vin, l'impression de ce que vous avez goûté longtemps après, un peu comme quand vous sentez un parfum, eh bien, vous le sentez longtemps après. Donc, on a calculé, c'est une mesure de temps pour le vin. Ça, c'est une chose technique. Mais quand on... Il y a deux choses vis-à-vis du vin, soit déguster, soit goûter. Déguster, c'est-à-dire que vous essayez de décortiquer l'identité du vin, sa couleur, son nez, sa bouche, sa longueur en bouche, la provenance du cépage, du lieu, le nom de la fermière et des petits-enfants, si vous voulez. Pourquoi pas? C'est un aspect. L'autre aspect, qui est beaucoup plus profond, c'est goûter. Ça veut dire quoi? C'est la communion, effectivement. Ça veut dire, je ne sais pas qui tu es, mais je désire te recevoir, viens en moi et je te ferai part de mon ressenti. Et ça, c'est beaucoup plus profond. Ça demande une éducation. S'éduquer au vin, c'est s'éduquer à la société, la connaissance, le respect, le partage. Alors ça, c'est un programme politique très difficile qui dure depuis le début de l'humanité et j'espère qu'il va durer encore. Cette recherche permanente de l'ivresse joyeuse à travers le respect de l'autre.
Yves Legrand, il y a un prophète du vin que vous avez bien connu, qui était le maître de Gérard Depardieu et son ami, qui a d'ailleurs une allée dans vos caves, qui est Jean Carmé.
Jean Carmé est un ami, pour ne pas être l'ami de Jean Carmé, et il venait effectivement souvent déjeuner à cette table familiale où il y avait des échanges permanents, violents, directs, purs. Et Jean Carmé était infidèle, il habitait Sèvres, il venait souvent chez nous, comme René Fallet d'ailleurs, je suis toujours en communication avec son épouse. Et puis toute cette génération, moi j'étais jeune, je savais pas trop qui étaient ces gens-là, après j'ai su bien sûr, c'était des écorchés de la vie, c'est la génération de la guerre. Ils criaient leur amour de la vie et la bêtise des hommes. Et ils voulaient que tout le monde ait cette joie de vivre. Alors ils l'exprimaient à leur façon, Brassens bien sûr. Et ceux d'aujourd'hui aussi. Parce qu'il faut toujours croire, il y a toujours un renouveau. Il y a une renaissance. Les vins d'aujourd'hui, il faut le dire, sont beaucoup plus beaux que précédemment. Nous avons oublié, mais jusque dans les années 1970, la qualité d'un vin pour les vignerons, pour la grande masse des vignerons et du consommateur, était son degré hecto et sa couleur. C'est abominable de dire ça. aujourd'hui. Parce que la consommation de vin était très importante et donc c'était degré et tout. Vous vous souvenez, dans votre jeunesse,
c'était très quantitatif.
Vous preniez un 10 degrés, puis si vous étiez un peu plus riche, vous preniez un 11 degrés, un 12 degrés. D'ailleurs, à cette époque, le verre, on récupérait le verre. On faisait de l'écologie comme Monsieur Jourdain. Le gros quittage, moi j'étais tout jeune, mon père m'envoie faire une course à Bercy, le temple du vin parisien et français. Et je rentre dans ces grands hangars qui m'impressionnaient et je vois un monsieur qui était âgé pour moi à l'époque et qui jetait des verres de vin sur de la céramique blanche. Et je me suis dit, mais il est malade, il a trop bu ou quoi? Pas du tout. J'ai osé le questionner à peu près poliment. Je disais, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh, petit, c'est le gros qui tâche. Ça, c'est du bon, hein. Et il fallait qu'il tâche bien le mur. C'était sa couleur. On était dans les années 70. C'est pas très vieux.
D'où la passion pour la Syrah. Je vous propose, avant de nous quitter, de rendre un petit hommage à Jean Carmé en écoutant une interview d'RFI de 1978 d'Anne Toulouse où il évoque son père.
Mon père était viticulteur, mais un petit viticulteur. Et quand la récolte ne lui plaisait pas, eh ben il ne vendait pas. Mais quoi, il produisait 12 barriques de vin par an. Et quand ça ne lui plaisait pas, il ne vendait pas.
Qu'est-ce que vous en faisiez, du vinaigre?
Non, il faisait de l'alcool. À l'époque, bon, il y avait les bouilleurs de cru, il y avait tout ça, il faisait de l'alcool, ou alors, je ne sais pas, c'était la consommation courante. Parce
c'était
que,
le luxe suprême.
Oui, hein. Mais chez nous, il y avait, enfin, on buvait beaucoup. Hein. C'était des personnages absolument hauts en couleur. Qui ne buvaient, mon père ne buvait jamais d'alcool, disait-il.
Il ne buvait que du vin.
Il ne buvait du vin, mais il ne se lavait pas à l'eau, il se lavait à l'alcool. Il disait que l'eau était une saloperie. Hein. À la maison, il disait qu'il y avait du calcaire dedans. Hein. Et mon père se lavait avec des tampons de ouate et de l'alcool. Ça, c'est une chose étonnante.
Oui.
Vous connaissiez cette chose étonnante, Yves Legrand ?
Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est émouvant d'écouter Jean Carmet. C'est bien son parler toujours calme, avec un sous-entendu humoristique. Merci Jean.
Aujourd'hui, Yves Legrand, il reste combien de vignobles en région parisienne ?
Alors, les vignobles se développent, à ma dernière connaissance, qui est peut-être un peu fausse, mais on est à environ 140, 150 parcelles de vignes en Île-de-France. Il y a d'ailleurs deux syndicats de vignerons, parce que c'est très gaulois ça, hein, quand il y a trois personnes, il y a déjà quatre syndicats, c'est à peu près le cas. Mais bon, on évolue, on goûte nos vins. Alors il y a des vignes municipales, comme celle de Suresnes par exemple. Il y a des vignes associatives comme la nôtre à Issy-Moulineaux, des vignes municipales comme la rue Saint-Vincent à Paris-Montmartre, et quelques vignes individuelles. Ce ne sont pas des vignes commerciales, ce sont des vignes pour la culture. Sauf Suresnes, parce que Suresnes s'autofinance, il y a presque un hectare de vignes, ce qui est beaucoup. Mais voilà, donc nous sommes...
Et il y a encore du vin à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Il y a encore du vin à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Bien sûr, ils ont replanté des vignes, je les connais bien, j'ai participé à cette plantation. Argenteuil aussi encore, enfin... 140 parcelles de vignes en Île-de-France, les gens l'ignorent. J'avais organisé, et Fallait vivait encore, j'avais organisé le premier rallye des vignes en Île-de-France, ravitaillement uniquement en vin. C'était l'époque où ces espèces de zozo s'amusaient à avancer le moins vite possible.
C'est ce qu'on appelle le carburant.
C'est ce qu'on appelle le carburant. Je ne l'ai pas refait parce que c'était abominable.
Merci beaucoup Yves Legrand.
Fais attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère. La prise de son est de Philippe Palares. L'émission est préparée avec Dominique Compétissa et la mise en onde est d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission en toute éternité. Vous pouvez aussi la télécharger pendant un an seulement et dans quelques instants, le journal sur France Culture.